Bonjour et bienvenue, 11h TU, midi ici à Paris, le journal sur RFI.
Gilles Moreau.
Dans l'actualité, œil pour œil, dent pour dent entre les États-Unis et l'Iran, Téhéran a vivement réagi aux annonces américaines sur l'envoi vers le Golfe d'un important groupe aéronaval à suivre dans un instant. La Russie a lancé ce matin une nouvelle attaque d'envergure contre le système énergétique de l'Ukraine, faisant au moins un mort et 27 blessés. Des frappes lancées alors que les pourparlers se poursuivent à Abu Dhabi. Intempéries meurtrières en Afghanistan, les importantes chutes de neige ont fait une soixantaine de morts dans les provinces du nord et du centre du pays. Le porte-avions Abraham Lincoln fait route actuellement vers le Golfe et avec lui tout un groupe aéronaval américain. La perspective d'une intervention militaire semblait s'être éloignée, mais Donald Trump maintient la pression sur Téhéran. Le régime iranien, lui, ne change pas de position. Il fait face et il répond vivement au président américain. Correspondance à Téhéran de Siavosh Ghazi.
Les réactions se sont multipliées hier soir. Le chef de la force aérospatiale des gardiens de la révolution, qui est en charge du programme balistique de l'Iran, a déclaré que Donald Trump parlait beaucoup, mais qu'il devait être certain que l'Iran répondra à ses menaces sur le champ de bataille. De son côté, le chef des gardiens de la révolution a déclaré « Nous avons le doigt sur la gâchette. Les Américains disent qu'ils veulent parler avec nous. C'est la meilleure option pour eux, mais cette fois-ci, on ne sera pas berné par les négociations. » Une allusion aux négociations en début d'année, alors que Téhéran et Washington négociaient sur le dossier nucléaire. Israël a lancé une attaque contre l'Iran avant d'être rejoint par les États-Unis qui ont détruit partiellement ou totalement les installations nucléaires du pays. Ces derniers jours, plusieurs responsables politiques et militaires ont également mis en garde les États-Unis contre toute agression contre le guide suprême iranien en affirmant que toutes les bases américaines mais aussi Israël seront visées en riposte. L'arrivée du porte-avions américain dans la région et le renforcement de la présence militaire font craindre une attaque américaine pour décapiter le pouvoir. Siavosh Ghazi, Téhéran RFI.
Le Pentagone, le ministère américain de la Défense, a présenté sa nouvelle stratégie intitulée Stratégie de Défense Nationale 2026. Elle marque une rupture avec sa politique passée. L'armée américaine compte apporter un soutien plus limité aux alliés de Washington en Europe pour donner la priorité à la sécurité intérieure. Le ton est plus modéré à l'égard des adversaires traditionnels des États-Unis que sont la Chine et la Russie. Le document du Pentagone est rendu public au terme d'une semaine de crise inédite entre Washington et ses alliés de l'OTAN concernant le Groenland. Je vous disais dans les titres, pas de pause dans les hostilités en Ukraine. Les frappes russes ont fait la nuit dernière au moins morts et 27 blessés à Kiev et à Kharkiv dans le nord-est. Tout le territoire s'est retrouvé en état d'alerte. Les autorités militaires de Kiev avertissant notamment de la menace de drones et de missiles balistiques. Dans le même temps, une deuxième journée de pourparlers est en cours à Abu Dhabi dans l'espoir de mettre fin à cette guerre. Bientôt 4 ans après son déclenchement, la capitale des Émirats accueille des négociateurs russes, ukrainiens et américains. Un format nouveau, ce sont les premières négociations directes connues entre Moscou et Kiev sur le plan américain de règlement. Pour le moment, les discussions bloquent sur les concessions territoriales, en particulier sur l'épineuse question du Donbass. Un compromis est-il malgré tout possible? Ces discussions peuvent-elles aboutir à un accord en bonne et due forme? Écoutez la réponse du commissaire européen à la défense, Andrius Kubilius.
Nous devons espérer que la Russie finira par signer un accord de paix. Mais jusqu'à présent, Vladimir Poutine n'a pas donné beaucoup de signes en ce sens. Donc nous verrons. Nous sommes très favorables à la paix, à une paix juste. Mais ce que fera Poutine, nous ne pouvons pas le prévoir. Jusqu'à présent, nous n'avons vu aucun signal indiquant qu'ils accepteraient ce qui a été convenu entre la partie ukrainienne, les États-Unis et l'Union européenne. Pour l'instant, nous devons simplement attendre l'issue de ces négociations. Elles viennent juste de commencer.
L'Europe est une nouvelle fois absente de ces discussions. Que devraient faire les pays européens pour revenir à la table des négociations?
Alors les pays de l'Union européenne ont déjà fait beaucoup pour soutenir l'Ukraine. Cela permet aux Ukrainiens de se défendre et d'avoir une bonne position dans les négociations. L'Europe joue ici un rôle important. De leur côté, les Américains essaient de convaincre Poutine d'arrêter la guerre. Nous verrons très bientôt si ces tentatives seront efficaces.
Andrius Kubilius, commissaire européen de la Défense, répondait à Daniel Valo. Il était ce matin l'invité de RFI. intempéries meurtrières en Afghanistan, les importantes chutes de neige et les fortes pluies ont fait ces deux derniers jours une soixantaine de morts dans les provinces du nord et du centre de l'Afghanistan. Aux États-Unis aussi, une tempête hivernale s'est abattue sur une partie du pays. Le gouvernement a diffusé des alertes aux tempêtes de glace et au froid extrême. Alerte valable du sud des montagnes rocheuses jusqu'à la région de New York, dans une partie du pays où résident plus de 200 millions d'habitants. Au Japon, les élections législatives anticipées se tiendront le 8 février. Hier, la première ministre Sanae Takeshi a officiellement dissous la chambre basse du Parlement. La dirigeante ultranationaliste table sur sa popularité pour consolider sa majorité. Actuellement, la coalition au pouvoir n'est majoritaire que de justesse au Parlement, ce qui, à chaque vote, la met à la merci d'une seule et unique défection ou même abstention. À Tokyo, pour RFI, Bruno Duval.
Depuis trois mois, Sanae Takeshi répétait en boucle que le pays n'avait pas de temps à perdre avec une campagne électorale, la priorité étant de relancer l'économie et d'atténuer une inflation qui est à un niveau sans précédent depuis 30 ans. Elle a fini par changer d'avis. Dans les rues de la capitale, ses électeurs sont partagés.
Jamais notre pays n'avait été dirigé par une femme, donc il faut lui donner sa chance d'améliorer le sort peu enviable des Japonaises.
Les gens n'en ont rien à faire du discours de campagne. Ce qu'ils veulent, c'est que des décisions soient prises en vue d'améliorer leur vie quotidienne.
Je ne suis pas sûr que ce soit un choix très responsable. Il y a tant de défis à relever et au plus vite. En haut lieu, on ne peut donc pas se permettre de perdre trop de temps.
Je la soutiens à 100%, car elle, qui est issue d'un milieu plutôt modeste, se soucie des petites gens comme nous, de notre pouvoir d'achat notamment.
Les dernières législatives anticipées en date, fin octobre 2024, avaient tourné au fiasco pour la majorité. En dépit de ce fâcheux précédent, Sanae Takeshi, à son tour, se risque à un tel scrutin en raison de sa popularité. 70% des sondés disent approuver son action. Une telle cote de confiance qui, en plus, ne s'effrite pas de mois en mois, c'est du jamais vu depuis 20 ans pour un chef du gouvernement. Bruno Duval, Tokyo, RFI.
2026 démarre plutôt bien pour l'économie française. La tendance est encourageante en tout cas, en dépit des tensions géopolitiques et du vote très laborieux d'un nouveau budget au Parlement. L'INSEE, l'Institut de la Statistique, a dévoilé hier de bons chiffres concernant le moral des entrepreneurs. Dans le secteur de l'industrie, le climat des affaires atteint même des records. Lors de ses vœux aux acteurs économiques, hier, le ministre Roland Lescure s'est voulu optimiste. Reportage de Sofiane Abazian.
Dans un discours d'une quinzaine de minutes, le ministre de l'économie, Roland Lescure, s'est avancé confiant face aux acteurs économiques. Malgré l'incertitude autour du vote d'un budget pour la France, certains indicateurs sont un peu plus prometteurs que prévu.
Nos résultats économiques sont encourageants. Tout pointe vers une croissance qui sera sans doute plus proche de 0,9% que le 0,7% auquel nous nous attendions.
Une hausse de 0,2 points de la croissance qui pourrait rapporter jusqu'à 6 milliards d'euros, encourageant, oui, comme le moral des chefs d'entreprise que l'INSEE a partagé ce vendredi. Des chiffres relativement stables, sauf dans un secteur.
2026 commence plutôt bien, puisque les enquêtes de conjoncture sont plutôt bien orientées, notamment dans l'industrie. Ces résultats, nous les devons en grande partie aux entreprises qui ont continué d'investir, de recruter, de produire et d'exporter, et dont soyez-en remerciés. Et puis continuez.
Si le climat des affaires dans l'industrie connaît une hausse de 3 points et atteint son plus haut niveau depuis près de 4 ans, la prudence reste de mise car les incertitudes économiques et politiques, notamment à l'international, pourraient peser sur l'économie française plus tard dans l'année.
Reportage de Sofiane Amazian. Giorgia Meloni, la présidente du Conseil italien, réagit vivement à la libération du propriétaire français du bar de Crans-Montana en Suisse, bar ravagé par un incendie qui a fait 40 morts la nuit du Nouvel An. Elle a exprimé ce matin la vive indignation du gouvernement et de toute l'Italie. Hier, la justice suisse a libéré Jacques Moretti contre une caution d'environ 215 000 euros. Enfin, la chaleur s'est abattue sur Melbourne, poussant les organisateurs de l'Open d'Australie de tennis et bien interrompre pendant près de 5 heures les matchs afin bien sûr de préserver la santé des joueurs et des joueuses. Au moment de la coupure, la température dépassait 35 degrés Celsius. L'Italien Yannick Sinner, double tenant du titre numéro 2 mondial, a dû surmonter la chaleur et des crampes pour se qualifier en 8e de finale. Il a concédé un set à un Américain classé 85 mondial. C'est fini pour le Monégasque Valentin Vachereau, dominé par l'Américain Ben Shelton. Fini aussi enfin pour Stan Wawrinka, le vétéran Suisse qui mettra fin à sa carrière à l'issue de la saison. Il a 40 ans. Voilà, bonne journée sur RFI. Elle continue avec Carrefour du Maghreb, l'émission de Juliette Rangeval.
Tu veux faire péter du son à dos dans tes oreilles, yo man.
Attends, j'ai des potes.
radio amateur. On va aller les voir.
Principe actif, 102.4 FM.
Une orientation professionnelle, une formation? Rendez-vous les 23 et 24 janvier au Salon des métiers de l'emploi, de l'orientation et des formations supérieures organisé par l'agglomération Évreux Porte de Normandie avec le soutien financier de la CCI. À la Halle des Expositions d'Évreux, 150 organismes et établissements d'enseignement supérieur présenteront leurs formations et des employeurs leurs postes à pourvoir. Sur place également, démonstration métier, tests d'orientation et conseils pour votre voie professionnelle. Venez avec votre CV. Plus d'infos sur évreuxportedenormandie.fr.
devant trop poser ma tête pour étouffer la petite bête qui me ronge les pensées. Un tombeau de solitude que l'on garde par habitude, un petit morceau d'inquiétude. Personne où aller, et chaque recoin du monde est là pour me le rappeler, seconde après seconde. Je n'ai personne où aller.
Le nez crochu et le front dégarni. Il dit qu'il veut renvoyer chez eux les migrants que ce sont que faire la fête, tout le monde est invité. Dans mon quartier, nous on est tolérants. Qu'est-ce que ça change d'être chrétien, juif, athée ou musulman?
Tu sais toi,
papaye, palapaye.
Techniquement, il est très facile d'émettre en modulation de fréquence. Il faut une antenne bien placée, un émetteur, un micro, un casque et un tourne-disque. Le problème, c'est que si tout le monde peut faire de la radio, il n'y a pas techniquement de place pour tous sur la bande FM.
Vous écoutez Principe Actif.
Vous écoutez Principe Actif à Évreux, 102.4. Dans le sud de l'Eure, 95.9.
Principe Actif.
Principe Actif, le mix des cultures.
We were born into this world.